France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Benjamin Bernheim, je suis né à Paris en 1985 et je suis chanteur d'opéra.
Benjamin Bernheim, le collectif vous a aidé aussi, hein, le collectif de la maîtrise quand vous êtes tout jeune, et puis ensuite du chœur, une manière de se trouver, et puis en même temps de sortir du collectif familial et de vous retrouver enfin tout seul. Il y a l'étape de Lausanne et puis l'étape de Zurich. Alors là, Zurich, vous y arrivez pour rentrer dans l'Opéra Studio
Et j'y entre,
de Zurich.
Absolument.
Et vous y rentrez.
Et j'y entre.
Et ça, ça vous donne confiance ?
Alors, ça me donne confiance. Alors,
on est en quelle année ?
Là, on est en 2007 ou 2008, donc j'avais 22-23 ans. Et j'avais un ami au conservatoire, un chanteur, dont la copine était pianiste à l'Opéra Studio. Et elle me disait tout le temps, il faut absolument que tu le fasses. Et c'est très marrant parce que moi, j'avais plein d'a priori sur le monde germanique de l'opéra. Je venais du monde francophone et français de l'opéra, donc c'était l'Opéra de Paris, c'était l'Opéra de Lyon, le Grand Théâtre à Genève, la Monnaie de Bruxelles. Mais tout ce qui était germanique, j'en avais entendu tellement de mal, dans le sens où on disait « faire attention, faut pas entrer dans une troupe, c'est dangereux pour la voix, on se retrouve à chanter des rôles qui sont pas bons pour nous, on se retrouve dans une usine ». Et j'avais très très peur de ce système-là. Et en plus, j'étais tellement centré sur... ce qui se passe en France, je crois que je me rendais pas du tout compte de ce qui se passait à Zurich, alors que j'étais dans le même pays. Et j'auditionne à Zurich pour la personne qui allait être mon prof à l'Opéra Studio, c'était Francisco Araiza, qui était un des ténors favoris, surtout pour Mozart, de Herbert von Karajan. Et c'était pour moi de rencontrer Araiza. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, Araiza ? Pour mon audition, c'était lui que j'écoutais pour Tamino, pour Don Ottavio, pour tous ces enregistrements qu'il avait fait. Et on m'a dit, ah bah, c'est le prof de chant de l'Opéra Studio, donc c'est lui qui t'écoute en audition. Alors, j'en venais pas large du tout. Et j'ai chanté, je crois que j'ai chanté 3 ou 4 airs, très différents. Je pense que j'ai dû les perdre complètement, parce que j'ai amené tout et n'importe quoi. J'ai chanté du Mozart, du Puccini encore, du Handel, ça avait aucun sens. J'aimais de tout. Bon, je pouvais tout chanter, pas très bien, mais je pouvais tout chanter, donc j'essayais. Et ils m'ont dit, on te prend. Bon, comme je suis français et suisse, pour eux, c'était aussi important de dire, on prend un artiste suisse, puisque la Suisse n'est pas un pays qui produit beaucoup d'artistes, c'est un pays qui reçoit des artistes, mais il n'y a pas beaucoup de Suisses qui sortent. Ils sont rares, les artistes suisses qui sortent. Donc pour eux, ils se disent, un ténor qui... est aussi suisse, c'est pas mal pour nous, ça va donner une bonne image, parce que c'est vrai que c'est rare. Et donc j'étais pris, et je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangé. J'avais très très peur, parce que j'avais appris l'allemand à l'école, mais tellement mal que je parlais pas du tout allemand. Et à tel point qu'au bout d'un moment, ils en avaient tellement marre qu'ils me parlaient tous en anglais. Parce que j'étais même pas le français, j'étais le suisse francophone, le suisse roman. Donc on me disait vraiment, oui mais toi, t'es le suisse roman, tu parles pas allemand. Évidemment, les francophones parlent pas allemand. Donc c'était déjà, il y avait une relation d'amitié, inimitié avec tous les gens de l'opéra qui s'est créée. Et c'est devenu ma maison. C'est devenu la maison d'opéra dans laquelle j'ai vraiment grandi énormément. Et ça a été... une découverte, déjà, parce que je ne savais pas que l'Opéra de Zurich était l'Opéra de Zurich. J'avais aucune idée que toutes ces stars venaient là-bas. Je ne savais pas que Jonas Kaufmann était en résidence là-bas.
C'était Alexander Pereira ?
Alexander Pereira, qui m'écoute en audition après un mois d'Opéra Studio, qui m'offre un contrat. Et je ne me rendais pas compte, parce que j'ai refusé. J'ai dit, non, moi, les troupes, pas du tout. J'ai tout de suite refusé. Et je me suis dit, mais tout le monde disait, mais t'es fou. On refuse pas. J'ai dit, mais t'as vu, dans cette troupe, il y a Bechala, il y a Grigolo, il y a Kaufmann. Quand est-ce que je vais pouvoir chanter un truc intéressant, moi? Je me rendais pas compte qu'il fallait beaucoup plus de temps que ça pour développer quelque chose, et que je pense que je voulais peut-être des choses trop vite, très vite, et je me suis dit, j'ai aucune chance. Donc j'ai refusé plusieurs offres de Pereira, qui me disait, mais je comprends pas pourquoi tu veux pas venir, c'est idéal pour toi.
Parce que c'était quoi la différence entre le studio et la troupe?
Alors, le studio, c'est un programme, comme l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris, c'est un programme qui dure 1 année ou 2 ans, durant lequel on a des coachings avec des pianistes, et on a des petits rôles. On fait partie des, des jeunes artistes qui sont mis sur scène pour faire des petits rôles. C'est pour apprendre. C'est pour apprendre, c'est pour s'imprégner du monde professionnel. C'est une chance extraordinaire. Je le conseille à, en tout cas, si on le vit comme je l'ai vécu, ça vaut la peine parce que moi, j'ai pu m'imprégner de tout. Et après une semaine d'Opéra Studio, on me dit, ah, tu dois aller à l'opéra demain pour répéter pour Aïda. Qu'est-ce que je dois faire dans Aïda? On me dit, ah, ben, tu fais le messager dans Aïda avec, et je regarde le casting, je dis que des stars et Giorgio Zancanaro. Je pensais qu'il était mort à l'époque. Giorgio Zancanaro, je me disais, pas possible que ce soit lui, ça doit être son neveu ou son fils. Et c'était Giorgio Zancanaro qui venait pour chanter je ne sais plus quel rôle. C'était invraisemblable, inouï. Je me retrouve sur scène avec un monument, Giorgio Zancanaro, qui était vieux. Il avait 80, 75, 80 ans. La voix, ça allait plus, mais c'était Giorgio Zancanaro, c'est une grande star. Zurich, pour moi, ça a été... L'Opéra Studio, ça a été des années d'écoute. Des années... Enfin, une année où je me suis imprégné énormément de ce que je voyais. Il y avait le côté un peu Disneyland où on se retrouve bébé chanteur, bébé ténor, au milieu de tout ce monde. Un soir, il y a Jonas Kaufmann qui chante. Le lendemain, c'est Neil Jikoff. Le surlendemain, c'est Cécilia Bartoli.
Ils étaient vraiment l'âge d'or quand même.
C'était l'âge d'or de
Zurich.
C'était
beaucoup, beaucoup, beaucoup de stars.
Ouais. C'était que des stars. Ouais. Il n'y avait pas une représentation sans stars. Mm. Il y avait une semaine qui était complètement folle. Je me souviens, il y avait Fleming le mardi, après un récital de Leonucci. Il y avait tous les chanteurs, tous les grands chanteurs étaient là. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Je ne me rendais pas compte que Zurich était la maison qu'elle était. Et ça venait justement de tous ces a priori. Je m'étais vraiment fermé au monde germanique de l'opéra en disant non, ce n'est pas pour moi, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas bien. Et à la fin de l'année de l'Opéra Studio, j'ai finalement décidé d'accepter le contrat qui m'était offert en me disant, j'ai la chance d'être jeune. Peut-être si j'avais eu 30 ans à l'époque, ça aurait été compliqué, mais j'avais 24 ans à l'époque. Et je me dis... Si ça marche pas, je peux toujours partir, mais au moins j'apprendrai quelque chose. Et là, la troupe pour moi, la troupe de Zurich, ça a été un apprentissage très intéressant, mais beaucoup plus frustrant. Beaucoup plus frustrant parce que là, on est employé, on fait partie d'une équipe, c'est plus Disneyland, c'est plus tu as vraiment une responsabilité, tu fais partie de la troupe, tu es un de nos outils et tu choisis pas ce que tu chantes. Alors évidemment, là. Ça n'allait plus, j'étais furieux, moi, parce que je me disais, mais je comprends pas pourquoi on me donnera des choses que je veux pas chanter. Et c'est là que j'ai appris qu'il faut penser en équipe quand on est en troupe, c'est qu'on choisit pas, surtout quand on est jeune. J'ai tout chanté. Mais vraiment, les petits rôles dans le nez de Shostakovich, dans Matisse d'Hermaler de Hindemith, les contes d'Hoffmann, Zalomé, enfin, j'ai fait plein de petits rôles. Et j'étais frustré. Mais alors, frustré, de pas aider. L'idée d'avoir que 10 secondes de chant par soirée sur scène. Et finalement, rétrospectivement, ça a été une chance énorme. Déjà parce que j'étais entouré des plus grands. Donc, je pouvais m'imprégner de ce qu'eux faisaient. Comment ils géraient leur stress? Comment ils géraient les conflits?
De voir l'envers du décor.
De voir l'envers du décor, mais aussi de les voir gérer leur quotidien scénique. Alors, je ne sais pas ce qu'ils faisaient quand ils étaient chez eux, mais une fois qu'ils arrivaient à l'opéra, je devais être terriblement ennuyeux parce que je les suivais comme un petit chien. Je les suivais tous. Pour moi, c'était... Je regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et il y avait, je chantais un tout petit rôle dans Trovatore et avec Marcello Alvarez. Et pour moi, c'était un monument. Et c'est toujours un monument. C'était extraordinaire de pouvoir chanter. Donc, avec lui sur scène, donc je m'imprégnais. Je dis voilà, j'étais en répétition et je buvais leurs paroles. Je regardais comment ils réagissaient à des conflits. Je regardais comment ils réagissaient à une fatigue vocale. Et j'apprenais. Je dis, ah tiens, elle s'arrête de chanter. Elle continue à chanter malgré la fatigue vocale. Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ça? Les conflits entre metteurs en scène, chefs d'orchestre, chanteurs, tout ça, c'est quelque chose qui peut être très déstabilisant. Et on en vit énormément sur scène, des conflits. des engueulades sur scène, des noms d'oiseaux qui sortent de la bouche de tout le monde et qui devraient pas et qui peuvent heurter, qui peuvent faire du mal, parce qu'à la fin, on est des artistes sur scène, on doit défendre une institution, mais on doit aussi être en équilibre. Et s'il y a des conflits, c'est très difficile d'être sur scène et de défendre une institution et une pièce s'il y a des conflits. Et j'ai énormément appris justement de ces chanteurs, stars et pas stars, de comment ils géraient ça. Parce que c'était ça qui m'intéressait, c'est si j'arrive au plus haut niveau, est-ce que je suis capable de gérer ça? Est-ce que je suis capable de gérer ce stress? Et ça, l'Opéra de Zurich, la troupe de Zurich m'a appris tout ça. J'ai eu la chance à Zurich d'avoir deux directeurs généraux différents. D'abord Alexandre Pereira, qui est ensuite parti au Festival de Salzbourg, et ensuite pendant 2 ans, Andreas Romocki, qui est toujours actuel intendant directeur général de l'Opéra de Zurich. Et donc j'ai vu déjà deux politiques très différentes. Alexandre Pereira mettait l'accent sur les chefs d'orchestre et les chanteurs. Andreas Romocki met vraiment l'accent sur les metteurs en scène. Et donc, du temps d'Alexandre Pereira, même les nouvelles productions se faisaient avec 4 semaines et demie de répétition maximum. Le but, c'était la performance. C'était vraiment d'aller sur scène, d'être le plus possible sur scène. Show must go on. C'était vraiment l'idée, toujours une star sur scène, entourée de jeunes artistes, entourée de... Il y avait vraiment une énergie incroyable à cette époque, mais les répétitions, c'était pas... Ça allait vite, hein. Alors là, ça, c'était un peu le mauvais côté du monde de l'opéra. C'est le côté usine. Là, c'est vrai que c'était dommage, parce que finalement, un Alfredo, une Violetta et un Germont qui allaient chanter ensemble n'avaient même pas le temps de se rencontrer, de trouver des affinités vocales, personnelles, entre collègues. C'était, paf, on vous balance sur scène. Et du temps de Homoki, de Andreas Homoki, ça a été les grosses productions. 5-6 semaines de répétition pour une flûte enchantée, pour tout et n'importe quoi. Beaucoup de répétitions, que le metteur en scène ait vraiment le temps de travailler l'essence même de sa production, avec les artistes, que ce soit le même casque. Il était très attaché à ça, André. Il est toujours attaché à ça, Andreas Homoki, d'avoir le même casque pour toute une production, pour éviter qu'on se perde avec des identités différentes. C'est vraiment une production, c'est comme un tableau, il est unique. Puis quand il se fait en reprise, ce sera autre chose. Et c'est une vision intéressante parce qu'effectivement, si on y pense, une nouvelle production, il n'y a que quand on fait la nouvelle production qu'on a tout le travail qui va avec, ce travail de création. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est la création. La représentation est extraordinaire, c'est l'adrénaline, mais toute la création, aujourd'hui par exemple je vois le Faust de Gounod avec Tobias Kratza, l'année passée c'était Manon de Massenet avec Vincent Huguet, c'était un plaisir fou. On se réjouissait d'aller en répétition avec Vincent Huguet parce que il y avait quelque chose qui se passait. Il nous faisait entrer dans son monde, dans son imaginaire. Et ça, des expériences comme ça, on en a peu dans une carrière. Et c'est normal, parce que si c'était tout le temps comme ça, ça serait, ce serait un rêve. Et voilà. Mais quand on en a, c'est des moments qu'on chérit parce qu'ils ont une valeur inestimable.
France Musique, les grands entretiens de Benjamin Bernheim.
Ces années-là que vous passez, finalement, ça en fait beaucoup. Il y a de 2008 jusqu'à 2015. Alors
jusqu'à 2014, j'étais en troupe, 2014-2015. Et ensuite, j'ai essayé, je me suis lancé dans la vie.
Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement, je me demandais pendant
complètement. J'ai traversé plein de moments de découragement et des moments où je me suis dit que j'allais arrêter. D'ailleurs, j'ai arrêté 2 fois de chanter. parce que j'avais besoin d'une pause, parce que ça devenait insupportable, la frustration devenait insupportable, ça ne marchait pas comme je voulais, et puis je ne m'y retrouvais pas. J'avais vraiment besoin de déconnecter, donc j'ai eu deux périodes, la première en 2010, la deuxième en 2013, où je me suis arrêté les deux fois presque 6 mois. Vraiment déconnecté. J'étais quasiment plus en contact avec des chanteurs. J'étais à Genève, à Paris, avec des amis, mais j'étais pas du tout dans le monde de l'opéra. J'avais besoin de faire la paix avec quelque chose, parce que je sentais qu'il y avait un conflit intérieur, interne, très difficile à gérer. Et donc ça a été mes moments où j'ai essayé de penser à faire autre chose, et où je me suis aperçu que je le veuille ou non, j'étais quand même fait pour ça, mais qu'il fallait que je trouve le moyen de vivre en bonne intelligence avec cette vie, parce qu'elle me rendait, c'est une vie qui me rendait très très malheureux. Il y avait l'adrénaline de la scène, oui, c'était une chose, le plaisir des collègues, mais malgré tout, c'était une vie qui me rendait très très malheureux, en tout cas dans mes jeunes années, et c'est pour ça que j'ai arrêté, j'en pouvais plus. J'étais vraiment au bord de la rupture et du burn-out, parce que ça prenait des proportions pas normales dans ma tête, j'étais vraiment pas bien. Donc, ça, c'était le côté où vraiment j'ai arrêté de chanter. Et il y a des moments où, même en continuant à chanter, j'ai été découragé parce que je voulais atteindre un objectif et toutes les portes se fermaient. J'ai changé plusieurs fois d'agent pour des raisons diverses et variées. Et ça, c'est aussi un choix difficile à faire parce qu'un agent, c'est très important. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours parce que c'était le trait d'union entre les artistes et les maisons d'opéra. Mais c'est aussi un choix. C'est un choix de confiance. Et moi, j'étais arrivé à un moment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on ne voulait m'entendre que dans du répertoire allemand. Un nom Benjamin Bernheim, nom à consonance allemande, même s'il est alsacien. C'est pas grave, je voyais même des critiques de musicologues et de journalistes qui disaient le ténor allemand Benjamin Bernheim. Donc les gens ne faisaient même pas leur devoir en regardant mon CV.
Ou qu'on renvoyait à Zurich en disant que justement vous étiez,
oui, voilà,
vous étiez pas du tout.
Exactement.
assez disait, allemand.
Ah, vous n'êtes pas assez allemand, ah, t'es le français, t'es
voilà,
le francophone et tout ça.
Finalement, ça s'est retourné après.
Ça s'est un peu retourné.
Un truc d'identité.
Mais c'était très difficile parce que dans le répertoire allemand, j'avais peu à chanter qui pouvait me faire évoluer bien et sainement. Parce que soit on chante Stamino et certains rôles dans l'Enlèvement au Sérail, ou certains Mozart, mais même aussi en italien, mais on est un peu bloqué dans un tiroir, soit on va dans des rôles de ténor de caractère qui demandent beaucoup à la voix, qui sont très fatigantes pour la voix, et il faut un métier pour ça.
Ou pré-wagnérien.
Et c'est ce qu'on voulait me faire faire, c'est ce qu'on me disait, tu vas là-bas parce que t'as une voix qui sonne, t'as une voix de trompette, tout va bien, tu peux le faire. Et moi, je sentais que c'était pas ce que je voulais. Et j'avais entamé une carrière où j'avais accepté beaucoup de contrats pour chanter de l'allemand, en me disant, ben, si c'est dans ça qu'on veut m'écouter, j'accepte. Et tout d'un coup, j'ai fait quelques rencontres dans le métier de gens qui m'ont dit, tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux essayer ça dans 15 ans, si ça marche pas. Mais maintenant, tu peux pas te permettre de faire ça. Et j'ai ramé à contre-courant pendant quelques années. Je me suis fermé beaucoup de portes.
Parce qu'il y a des rôles, expliquer aux auditeurs, il y a des rôles qui rendent caduques d'autres rôles.
Absolument. Non,
si on chante trop tôt un rôle, il y a des rôles de la voix du moment qu'on ne pourra finalement
plus chanter. Déjà parce que la voix se sera fatiguée, parce qu'on aura demandé trop, comme un athlète à qui on demande trop. Il faut commencer par des petites choses, des petits matchs, quelques minutes de jeu à la fin du match. C'est comme ça qu'on commence. En tout cas, pour moi, c'était ce qu'il fallait. Mais je pouvais me permettre d'entrer dans le répertoire allemand et j'allais avoir une carrière, pas une grande carrière, mais j'allais avoir une carrière parce que ça marchait. Mais j'allais de nouveau ne pas être heureux du tout ou ne pas pouvoir en faire quelque chose de bien, je le sentais. Et donc malheureusement, j'ai dû fâcher quelques personnes dans le métier en leur disant « j'ai fait fausse route, je m'excuse ». Mais je ne vais pas faire ça. Et là, ça a été une période très difficile où la confiance a été ébranlée plusieurs fois par des gens importants dans ce métier qui étaient frustrés, qui me disaient « si tu dis non à ma proposition, c'est que tu es contre moi. Donc tu penses que je suis mauvais. » Donc la porte se ferme. Судьбы закон. La difficulté dans le milieu de l'opéra, le métier aujourd'hui, c'est que ces rôles romantiques de ténor lyrique aujourd'hui, bah, ce sont les rôles qui remplissent les salles. Et quand on est un inconnu, c'est très difficile de convaincre un directeur artistique de nous donner Alfredo, Rodolfo, Desgrieux, Faust, c'est très très difficile. Et là, c'est le pari du directeur artistique. Donc, j'ai décidé de ramer à contre-courant, de marteler partout que j'étais un ténor français. Français. Il a fallu que je rencontre des gens qui m'ont donné du courage, qui ont cru en moi. Ils n'étaient pas beaucoup, mais ils étaient là. Et qui m'ont donné le courage de me battre et de me dire, ouais, c'est vrai que ça vaut la peine, en tout cas, de vraiment se battre pour ça. Il fallait que j'essaye une sorte de baroud d'honneur pour le répertoire romantique. Et ça a marché, mais ça a été compliqué. J'ai changé plusieurs fois d'agence. La rencontre n'était pas la perle rare jusqu'à l'agent que j'ai maintenant, avec qui ça se passe merveilleusement bien parce que on s'est trouvé. On a un angle commun et on avance dans une direction commune. Et ça, c'est très important pour moi.
C'est ce qui vous a permis de prendre le risque de quitter la troupe? Parce que c'est quand même, on quitte un confort.
Je l'ai quitté avant. Ce grand saut, je l'ai fait avant parce que déjà, j'étais très malheureux en troupe. J'adore Zurich, j'adorais la maison de Zurich, mais l'idée de me retrouver pour faire ce métier, j'avais besoin d'une carotte. C'est bête, hein.
Ça peut pas être de se dire, mais un jour à la place de Kaufmann, ce sera moi dans la
troupe. Mais non, parce que Kaufmann, il est parti, puis il était plus dans la troupe, et il a fait peu dans la troupe, et il était déjà Kaufmann quand il était à Zurich. Donc pour moi, c'était pas ça la carotte. Et puis surtout, Kaufmann, quand il était dans la troupe, il chantait Tosca, il chantait Tamino, il chantait la Traviata. Moi, dans la troupe, je chantais des tout petits rôles. Donc c'était pas la même. Dans le contexte, c'était pas la même chose. Par contre, pour moi, j'observais quelque chose qui m'a fait peur, et effectivement, qui a fait qu'il y a beaucoup de croyances concernant les maisons allemandes, qui sont de temps en temps vraies, qui est que quand on se retrouve dans une maison qui fonctionne un peu comme une usine, on peut vite être dégoûté par le métier, on peut vite perdre la lumière, perdre l'étincelle, qui fait qu'on veut raconter quelque chose. Et pas seulement à Zurich, mais un peu partout, j'observais beaucoup de chanteurs qui avaient perdu cette lumière, qui avaient perdu cette envie de travailler leur voix, qui avaient perdu cette envie de venir répéter, qui avait perdu cette réalisation que c'est une chance énorme de faire un métier comme ça.
Viens, Manon, en marchant, je viens de faire un rêve.
Hélas, qui ne fait pas de rêve.
Si j'ai pas une carotte, si j'ai pas quelque chose qui me donne envie, si je suis salarié, que je reçois le même salaire tous les mois, je vais perdre cette flamme, je vais perdre ce feu. Et dans ce cas, moi, j'estime que je ne mérite pas d'être sur scène, si je perds ce feu. Et donc j'avais besoin de partir, sinon j'allais pas finir comme ça, dans le sens que c'est terrible, non? Parce que ces troupes ont besoin d'artistes, de chanteurs, quelle que soit leur motivation. On a besoin de tout le monde, mais pour moi, c'était quelque chose qui me faisait mal, de me dire que c'était ça qui m'attendait si je ne me mettais pas un coup de pied là où je pense. Et donc pour ça, c'était très important que j'avance et que je me dise, ok, c'est maintenant que je fais le pas. Et donc j'ai quitté la troupe.
Là, vous avez l'impression de choisir dans ces cas-là?
Ouais, là, j'avais l'impression que c'était la première fois, ou une des premières fois dans ma vie, que je faisais un choix qui allait à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensaient autour de moi. Beaucoup de gens me disaient, mais tu es fou, c'est de la sécurité. Mais là, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais des projets. J'étais pas sûr de réussir, mais j'ai essayé.
Ah, un extrait du rêve de Desgrieux dans Manon de Massenet à l'Opéra de Paris avec Pretiende pour refermer le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Benjamin Bernheim. Équipe de réalisation Lionel Quentin, Lucas Derode, Claire Levasseur et Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.